le président. À un demi-mile de là, Shuckworth, Shanks et Scholler braquaient sans relâche leur caméra sur l'ascenseur de verre. Et dans le monde entier, des millions et des millions de gens devant leur télévision regardaient avec angoisse le drame qui se jouait à 240 miles au-dessus de la Terre. Dans son bureau, à la Maison-Blanche, siégeait Lancelot R. Gilligrass, le président des États-Unis d'Amérique, l'homme le plus puissant de la planète. À l'occasion de cette crise, il avait convoqué ses meilleurs conseillers et à présent, ceux-ci suivaient attentivement sur un écran de télévision géant chaque mouvement de l'inquiétante capsule en verre et des 8 desperados de l'espace. L'état-major était réuni au grand complet. Il y avait le chef de l'armée de terre avec 4 généraux, le chef de la marine, le chef de l'armée de l'air et le meilleur ami du président, un avaleur de sabre d'Afghanistan. Au milieu de la pièce, le conseiller financier essayait en vain de faire tenir le budget en équilibre sur le sommet de sa tête. Et tout près du président se tenait la vice-présidente, une énorme femme de 89 ans avec du poil au menton. Elle avait été la nourrice du président, dont elle était maintenant l'éminence grise, et elle s'appelait Miss Tibbs. Elle ne tolérait pas la moindre bêtise. On racontait qu'elle se montrait aussi sévère avec le président que lorsqu'il était petit. C'était la terreur de la Maison-Blanche et le chef des services secrets en personne claquait des dents quand elle le convoquait. Seul le président avait le droit de l'appeler Nounou. Dans la pièce se trouvait également la célèbre chatte du président, Miss Topsy-Pouce. Pour l'instant, le plus grand silence régnait dans le bureau. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran de télé tandis que le petit objet de verre, fusée allumée, glissait doucement derrière le gigantesque Space Hotel.
Ils vont arriver! Ils vont aborder l'hôtel!
Ils vont le faire sauter! Faisons-les d'abord sauter eux! Crac, boum, peut-être un pompant!
Le chef de l'armée de terre portait tant de médailles qu'elle lui recouvrait entièrement la poitrine et descendait même le long de ses pantalons.
Allons, monsieur le président! Et que ça saute, et que ça saute!
Silence, petit crétin!
Aussitôt, le chef de l'armée de terre alla se retirer tout penaud dans un coin.
Écoutez, le problème est le suivant. Qui sont ces gens et d'où viennent-ils? Où est l'espion en chef?
Me voici, monsieur le président,
dit l'espion en chef. Il avait une fausse moustache, une fausse barbe, des faux cils, de fausses dents et une voix de fossé.
Toc, toc.
Qui est là?
Courtney.
Courtney qui?
Vous avez déjà un Courtney?
Il y eut un moment de silence.
Le président vous a posé une question. Avez-vous déjà un Courtney?
Non, madame, non.
Eh bien, vous avez de la chance.
Parfait. Dites-moi immédiatement qui sont ces gens dans la capsule de verre.
C'est une question fort difficile.
Vous ne le savez pas?
Si, je le sais, monsieur le président. Enfin, je crois le savoir. Nous venons de lancer le plus bel hôtel du monde, exact?
Exact.
Et qui est férocement jaloux de notre merveilleux hôtel, au point de vouloir le faire sauter?
Miss Tibbs.
Faux. Une autre réponse?
Eh bien, dans ce cas-là, peut-être qu'un autre propriétaire d'hôtel jalouse le nôtre.
Génial! Continuez, monsieur, vous chauffez.
Mr. Savoy.
Vous chauffez, vous chauffez.
Mr. Ritz.
Vous chauffez, vous brûlez, continuez.
J'ai trouvé Mr. Hilton.
Bravo, monsieur.
Vous êtes sûr que c'est lui?
Pas sûr, mais c'est très probable, monsieur le président. Après tout, monsieur Hilton a des hôtels partout dans le monde, mais pas dans l'espace. Nous, si. Il doit être jaloux comme un jar.
Pas mon chewing-gum. On va arranger ça.
Trancha le président en attrapant l'un des 11 téléphones de son bureau.
Allô? 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 Où est le standard?
Il pressa désespérément le petit bouton sur lequel on appuie quand on veut le standard.
Allô? Le standard?
on ne vous répondra pas, ils regardent tous la télévision.
Alors, celui-ci répondra.
Dit le président en décrochant un téléphone rouge vif. C'était la ligne directe qui le reliait au secrétaire général de l'Union soviétique à Moscou. Elle était toujours libre et on ne s'en servait qu'en cas d'extrême urgence.
Ça peut être aussi bien les Russes que M. Hilton. Êtes-vous d'accord, Nounou?
Ce sont obligatoirement les Russes.
Les patines à l'appareil. Qu'y a-t-il, monsieur le président?
Toc, toc.
Qui est là?
Guéret.
Guéret quoi?
Guéret Paix de Léon Tolstoy.
Écoutez-moi, Ballet Patine. Je veux que vous éloigniez vos astronautes de notre hôtel spécial. Sinon, vous allez voir ce que vous allez voir!
Ces astronautes ne sont pas russes, monsieur le président.
Il ment.
Vous mentez.
Je ne mens pas. Avez-vous regardé de près ces astronautes dans leur boîte en verre? Je ne les vois pas très bien sur mon écran, mais l'un d'entre eux, le petit à barbiche et en haut de forme, a exactement l'air d'un chinois. En fait, il me rappelle étrangement mon ami, le premier ministre de Chine populaire.
Quelle phobie!
S'écria le président en raccrochant le téléphone rouge et en décrochant celui de porcelaine qui le reliait directement à la présidence de la République populaire de Chine, à Pékin.
Allô? Allô, allô?
De légumes et de légumes de lequin à Shanghai. Monsieur Ving, à l'appareil.
Nounou, je croyais que c'était la ligne de la présidence.
C'est ça, essayez encore.
Le président décrocha une nouvelle fois le récepteur.
Allô?
Monsieur Wong, à l'appareil.
Qui?
Monsieur Wong, sous-chef de la gare à Shanghai. Tu sais, au sujet du train de 10 heures, il n'y en a pas aujourd'hui. La chaudière a éclaté.
Le président jeta le téléphone au général des transmissions qui le reçut en plein dans l'estomac.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est très difficile de téléphoner en Chine, monsieur le président, dit le général des transmissions. Et il y a plein de wing et de wong dans le pays, et quand on veut obtenir un wing, on a un wong.
En effet!
Le général des transmissions replaça le téléphone sur le bureau.
Essayez encore, monsieur le président. Je vous en prie, j'ai serré les écrous. En dessous.
Le président décrocha à nouveau le récepteur.
Mes compliments, honorable président. Chu Ingham, vice-premier ministre à l'appareil. Que puis-je faire pour vous?
Toc, toc.
Qui est là?
Attention.
Attention quoi?
Attention vous-même, quand vous tombez de la grande muraille de Chine. Ok, Chewing Gum. Je voudrais parler au premier ministre, Ko Mao Sava.
Tous mes regrets. Ko Mao Sava n'est pas là pour l'instant, monsieur le président.
Où est-il?
Dehors. Il répare son vélo qu'il a trouvé.
Oh non! Ne me racontez pas d'histoire, vieux mandarin matois. Il est en train d'aborder notre magnifique Space Hotel avec 7 autres canailles pour le faire sauter.
Je vous prie de m'excuser, monsieur le président. Mais vous vous trompez lourdement.
Je ne me trompe pas. Et si vous ne les rappelez pas immédiatement, je vais dire au chef de l'armée de terre de les faire tous sauter. Mâchez-moi ça, chewing-gum.
Excès chaud! Bang, bang, bang!
Silence!
J'y suis arrivé! Regardez-moi! J'ai équilibré le budget!
S'écria le conseiller financier. En effet,
Il se tenait au milieu de la pièce avec l'énorme budget de 200 billions de dollars splendidement en équilibre sur le sommet de son crâne chauve. Tout le monde applaudit. Puis, soudain, la voix de l'astronaute Chuckworth fit irruption dans le haut-parleur de la radio.
« Ils ont arrivé! Ils sont à bord! Ils ont emmené le lit, c'est-à-dire la bombe !»
Le président ouvrit la bouche pour prendre sa respiration et il aspira une grosse mouche qui passait par là inopinément. Il faillit s'étouffer. Miss Tipps lui tapa dans le dos. Il avala la mouche et se sentit mieux. Mais il était furieux. Il saisit un crayon et du papier et se mit à faire un dessin. Tout en décidant, il marmonnait
« Je ne veux plus de mouche dans mon bureau. Je ne tolérerai plus une seule mouche. »
Ses conseillers attendaient anxieusement. Ils savaient que le grand homme allait encore livrer au monde une de ses brillantes inventions. La dernière avait été le tire-bouchon pour gaucher, Gilligrass, que les gauchers du pays avaient accueilli comme la bénédiction du siècle.
« Ça y est !»
dit le président en brandissant sa feuille de papier.
« Voici le brevet du piège à mouche, Gilligrass !»
Tous firent cercle autour de lui.
« La mouche grimpe à l'échelle par le côté gauche. Elle marche sur la planche, s'arrête. Elle renifle. Elle hume quelque chose d'agréable. Elle regarde par-dessus bord et voit le morceau de sucre. « Ha ha !» s'écrie-t-elle, « du sucre !» Elle va descendre le long de la ficelle pour l'attraper. Quand elle aperçoit le baquet d'eau en dessous, « Oh oh !» dit-elle, « un piège !»« On espère que je vais y tomber. » Alors, elle continue à marcher en pensant qu'elle est joliment futée. Mais comme vous le constatez, il manque un barreau à l'échelle de droite par où elle va descendre. Soudain, elle tombe et se roule le cou.
Colossal, monsieur le président! Fantastique! Un goût de génie!
J'en commande tout de suite 100 000 pour l'armée!
Merci,
dit le président en notant soigneusement la commande.
Je répète, ils ont abordé et emmené la bombe.
Restez à distance. Pas question de faire sauter vos hommes.
Et maintenant, dans le monde entier, des millions de téléspectateurs attendaient plus anxieusement que jamais devant leur téléviseur. Les images de couleurs violentes montraient la sinistre petite boîte en verre bien arrimée sous le gigantesque hôtel spatial. On aurait dit un minuscule bébé animal accroché au ventre de sa mère. Et quand la caméra fit un zoom, des millions de téléspectateurs virent nettement que la boîte était vide. Les 8 Desperados avaient grimpé dans le Space Hotel en emportant la bombe.